Nous ne sommes pas mariés, mais nous achetons un bien immobilier en commun. À quoi faut-il faire attention ?
Il est tout à fait possible d'acheter un logement quand on n'est pas marié, mais il faut prendre certaines dispositions particulières. Que vous soyez marié ou non, si vous contractez une dette hypothécaire commune, vous êtes en règle générale solidairement responsable. Et comme les autres débiteurs, les couples doivent apporter au moins 20% de la valeur de la propriété sur leurs propres fonds pour financer leur logement. Sur ces points, les conditions sont donc les mêmes que pour les couples mariés, mais la répartition des droits de propriété diffère. La loi prévoit trois options: la propriété exclusive, la copropriété ou la propriété commune.
Chacune de ces options a ses avantages et ses inconvénients.
Tout à fait. Dans la plupart des cas, les couples optent pour la forme de la copropriété. Les parts de chaque partenaire sont inscrites séparément au registre foncier. Il s'agit très souvent de parts égales, mais d'autres répartitions sont aussi possibles si elles correspondent au montant que chacun a dépensé pour l'acquisition de la propriété. Chaque partenaire peut librement disposer de sa part. Dans le cas de la propriété commune, les deux partenaires sont inscrits au registre foncier avec les mêmes droits. Le bien immobilier leur appartient à part égale, même si l'un a investi plus de fonds propres que l'autre. Les partenaires sont étroitement liés l'un à l'autre et ne peuvent par exemple décider que conjointement de vendre la propriété. Enfin, il y a la propriété exclusive. Dans ce cas, l'un des deux partenaires est inscrit au registre foncier en tant que seul et unique propriétaire. L'utilisation commune du bien devra être fixée dans un contrat de location par exemple. Le propriétaire unique doit supporter tous les coûts engendrés par le bien et le seul à répondre de la dette hypothécaire. Il peut décider seul et à tout moment de la vente du bien. Le choix entre ces trois possibilités doit se faire selon la manière dont les concubins souhaitent partager la responsabilité entre eux.
Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé d'établir un contrat de concubinage.
C'est important parce que le Code civil ne contient pratiquement aucune disposition sur les droits et obligations des couples en concubinage. Un contrat permet donc de clarifier des points comme la description précise de la répartition de la propriété, c'est-à-dire la forme de propriété, les quotes-parts et droits des partenaires et l'origine du capital apporté, mais aussi la répartition des dépenses courantes liées à la propriété ou encore la manière de procéder et la répartition en cas de séparation.
Enfin, il vaut mieux aussi prévoir certains risques et aléas de la vie.
Par exemple, l'incapacité de gain suite à un accident ou une maladie ou le risque de décès d'un des concubins. Des assurances peuvent être conclues pour combler les lacunes de la prévoyance en la matière. Et il est aussi important de régler la succession en cas de décès parce que les concubins ne sont pas considérés comme des héritiers légaux. Pour que la personne survivante puisse hériter, il faut établir un testament ou un pacte successoral. Le concubinage a également des conséquences au niveau de la prévoyance, de l'AVS et de la caisse de pension. En cas de décès, aucune prestation n'est prévue pour le partenaire survivant. Mieux vaut donc anticiper ces points pour s'assurer que la personne survivante pourra rester dans la maison et maintenir son niveau de vie en cas de coup du sort.